RCF donne la parole aux associations locales et aux ONG. Et c'est dans Solid'Aid. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Solid'Aid, conjointe avec le Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté. Et nous recevons aujourd'hui en studio Ruth et Françoise. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
De quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Mais je crois qu'on va parler un peu de la des femmes.
Oui.
En sachant que l'homme le plus pauvre de Wallonie est une femme et que cette femme, elle se bat aussi pour avoir des droits, pour avoir un droit de vie décent, tout comme ses partenaires masculins, je vais dire. On est un peu... Enfin, on sait encore qu'en Belgique, il y a pas mal de femmes qui sont payées moins que les hommes. Les pensions des femmes sont moins élevées que les hommes. Leurs droits sont plus difficiles à obtenir. Et il y a aussi des femmes à la rue. Il y a plein de combats que les femmes peuvent mener. Et au Réseau Wallon, on est aussi extrêmement conscient qu'il faut que cette égalité-là soit obtenue pour qu'on puisse vraiment éradiquer la pauvreté.
Mmh. Ruth?
Ben, on va aussi parler du collectif 8 mars qui, cette année, a organisé une grève, le 8 mars, qui est le jour international de lutte pour le droit des femmes. Et donc oui, c'était une grève qui, là, on a essayé vraiment de mobiliser toutes les femmes dans toute leur diversité et aussi donner des voix différentes, donc que ce soit des femmes précaires, des femes avec ou sans travail. Donc du coup, on a vraiment essayé d'essayer de brasser large et de mobiliser toutes les femmes dans leur diversité. Donc voilà, on va aussi aborder cette question-là.
Comment elle a été suivie, cette grève du 8 mars? On en a beaucoup parlé. Hein, maintenant, est-ce qu'elle a été vraiment suivie et effective?
En tout cas, on avait du mal à avoir des estimations, mais on était vraiment très contentes du résultat au sein du collectif. Et personnellement, je trouve que c'était vraiment une réussite d'avoir su aussi mobiliser beaucoup plus de personnes. Même pendant la journée du 8 mars, là, on a vraiment organisé pendant toute la journée des assemblées, des ateliers, des open mic. Et en fait, on a vu que pendant toute la journée, beaucoup de personnes étaient venues participer à l'ensemble des activités qu'on proposait et aussi à la marche qui était organisée par la Marche mondiale des femmes. Mais en fait, on a vu que beaucoup plus de femmes étaient présentes à la marche que toutes les autres années, là, qui était beaucoup plus... là où, en fait, en général, on voit qu'on mobilise le 25 novembre contre les violences. Mais en fait, le 8 mars, c'était vraiment devenu un peu une journée juste morte en Belgique. Et là, l'objectif était vraiment de mobiliser un maximum de femmes. Et je pense que c'est vraiment une réussite et qu'on peut se féliciter.
C'est la situation des femmes aujourd'hui dans la vie, vous l'avez dit, est assez difficile. C'est parce que aussi les lois ont été faites par des hommes, hein, pour la plupart. Mais n'est-ce pas par l'éducation qu'il faut arriver à changer les mentalités?
Si, c'est par l'éducation, mais ça, je crois que tout le monde en est conscient. Et comme vous venez de le dire, les hommes font les lois et habituellement c'est des hommes blancs, d'âge respectable, je vais dire, avec un diplôme universitaire et une vision de la société qui n'est pas nécessairement la même que la nôtre. Donc moi je crois aussi que c'est important à un moment donné qu'on demande l'avis des personnes, et c'est ce que nous faisons au Réseau Wallon, d'aller trouver les témoignages des personnes qui sont dans une situation de précarité, pour que on puisse faire remonter au niveau du politique le ressenti des gens, leur manière de vivre. Ils ont des idées, ça c'est clair, parce que bon, le 8 mars, nous on a fait une action ici à Namur. En fait, on en a fait deux, une le matin, une l'après-midi, où on a construit une tour des droits des femmes en interpellant les passants et en leur disant c'est quoi pour vous une revendication pour les femmes, qu'est-ce que vous pourriez écrire sur cette tour. Et on a eu des résultats qui sont assez pertinents, où les gens, on se rend compte que les gens, et que pas nécessairement les hommes, mais les femmes, les hommes, c'était parfois interpellant, où effectivement c'est tout le monde a des idées. Au niveau d'éducation, je crois que oui, on a une éducation, on a l'éducation qu'on reçoit, mais on a aussi une vision de la société. Et c'est aussi au niveau de la visibilité de la société, quelle place est-ce qu'on donne aux femmes dans la société quand on voit que dans des conseils d'administration de grandes entreprises, les femmes sont encore extrêmement minoritaires. Quand on voit qu'au sein même du gouvernement, c'est quand même beaucoup plus masculin que féminin. Il y a plein d'endroits comme ça où la femme a vraiment du mal à se faire une place. Or, c'est pas qu'elle soit moins compétente, mais une femme est totalement discriminée déjà à la base en sachant qu'une femme jeune, l'employeur ou la personne qui pourrait la faire travailler se pose des questions quant au fait est-ce qu'elle va vouloir des enfants, est-ce qu'elle va se retrouver enceinte. À partir du moment où la dame a quelques années de plus, où elle a des enfants, oui, mais les enfants, ça tombe malade. Oui, mais les enfants, parfois, ça ne sait pas aller à l'école pour une raison X ou Y. Donc, ces dames, tant qu'on en est dans ce cadre-là, ont plus, de raisons de demander des congés par rapport à leurs enfants que, à l'heure actuelle dans la société, c'est vrai que c'est encore relativement minoritaire. Les pères qui prennent des congés parentaux, qui prennent des jours de congé pour pouvoir s'occuper de leurs enfants quand, pour une raison ou une autre, une journée pédagogique, la maladie d'un enfant, il faut rester à la maison parce qu'on n'a pas trouvé de solution de gardienne ou d'encadrement pour les enfants en dehors du cadre scolaire. C'est aussi ça le problème. Et tant que la société n'évoluera pas dans cette vision-là, on n'avancera pas non plus.
Vous êtes convaincu que c'est parce que les hommes ne veulent pas ou parce que les femmes ne veulent pas prendre une place qu'elles espèrent avoir?
Je crois que dans la société telle qu'on la vit à l'heure actuelle, un des gros problèmes pour moi, et là je parle en mon nom propre, c'est une répartition du temps de travail. À partir du moment où les parents doivent travailler à temps plein, etc., etc., c'est beaucoup plus difficile de se répartir. Et on reste dans un modèle qu'on a toujours connu. Les tâches ménagères, les soins aux enfants, etc., c'est compliqué. Si on avait une plus juste répartition du temps de travail avec des durées de travail moins longues, où les parents pourraient s'investir tous les deux de manière plus équitable dans ce qui est gestion de la famille, entre guillemets, les choses seraient quand même plus simples pour la répartition. Maintenant, c'est clair que la femme travaille plus souvent et nettement plus souvent que monsieur en temps partiel qui est pas toujours choisi, mais qui parfois est un choix contraint, dans le sens où madame va trouver plus facile de travailler à mi-temps, comme ça elle garde des plages horaires pour s'occuper des enfants. Vu que son salaire est moins conséquent que celui de monsieur, c'est pas à monsieur qu'on va dire « écoute, prends un mi-temps, parce que comme ça tu pourras t'occuper aussi de la famille ». Ils gagnent plus, donc la situation fait qu'à l'heure actuelle, on a besoin du revenu, d'un maximum de revenus pour pouvoir survivre.
Et ça, c'est un choix qui se fait dans la famille.
Ce n'est pas un choix qui se fait dans la famille. À partir du moment où une dame est payée 10 euros de l'heure, il fait un mi-temps, et a la possibilité de faire un mi-temps et que monsieur travaille à temps plein à 15 euros de l'heure ou à 20 euros de l'heure, le choix ne se pose même pas. C'est pas monsieur qui va prendre un mi-temps, c'est madame qui prendra un mi-temps.
C'est pas la faute du mari.
Je n'ai jamais dit que c'était la faute du mari. Je dis que c'est la faute de la société qui ne répartit pas à un moment donné les choses. Si tout le monde est à salaire égal et si on a un temps de travail qui est équitablement réparti sur la société, c'est quand même beaucoup plus facile de faire des choix qui ne sont pas contraints.
Ruth, on va passer à une musique. C'est toi qui as choisi la Lega. Tu peux nous dire deux mots sur ce morceau que tu aimes?
C'est une chanson en fait que j'ai justement découvert en organisant à la grève en fait. C'est une chanson italienne féministe et en fait qui parle justement un peu de ce que les femmes rencontrent et de comment est-ce qu'elles sont en lutte au jour le jour et en fait c'est moi j'aime beaucoup cette chanson parce qu'elle a aussi elle a en fait surtout un rythme pour moi et un peu un côté in qui est très en jouant et pas juste une chanson qui pleure sur le sort des femmes, etc. Parce que je crois que quand on parle aussi des femmes et de qu'est-ce qu'elles vivent, on met souvent l'accent, et c'est important de le dire, de comment est-ce qu'elles vivent, sont des contraintes et il y a des problèmes à résoudre. Mais après, je crois qu'il y a aussi quelque chose d'important à dire dans comment est-ce que les femmes sont en lutte et comment, en fait, au jour le jour, les femmes dénoncent ce qu'elles vivent et apportent des solutions concrètes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de libération de la parole des femmes, de mouvement MeToo ou de dénonciation, enfin de toute forme de prise de parole. Alors qu'en fait, les femmes dans l'histoire ont toujours dénoncé les inégalités. Et en fait, c'est juste qu'aujourd'hui, on leur offre ou en quelque sorte, on tolère une forme de présence médiatique parce qu'en fait, elle crée un rapport de force. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut surtout remettre l'accent sur le fait que les femmes ont toujours dénoncé et ont des solutions très concrètes à apporter à leurs problèmes. Et qu'en fait, aujourd'hui, il faut créer un rapport politique, un rapport de force politique pour faire en sorte que leurs revendications soient entendues. Je pense que c'est aussi important de dire ça parce qu'en fait, quand on dit la parole des femmes se libère, c'est, on dit qu'on entame un processus, alors que le processus est entamé depuis des années, voire des siècles. Et ça aussi, il faut pas le nier que il faut pas mettre la faute sur les hommes, il faut bien mettre la faute sur la société et comment est-ce qu'elle fonctionne. Il faut la décrire comme patriarcale pour bien dire que c'est pas possible d'expliquer des inégalités qui se reproduisent d'année en année, de décennie et de siècle en siècle, sans pouvoir dire oui, mais les femmes posent des choix. Les femmes ne posent pas des choix, elles ont des contraintes et elles y répondent d'une manière dans laquelle elles peuvent survivre, en fait. Et je crois que c'est bien ça sur lequel il faut mettre l'accent, c'est les femmes sont dans une situation de survie et les hommes peuvent en fait tout simplement, ont le privilège de juste vivre, avoir un travail, être bien payé, et ils doivent aussi pouvoir dire à un moment, ok, comment est-ce que moi je peux venir en aide ou en tout cas en soutien de ce que les femmes essayent de revendiquer. Et nous, par exemple, dans la grève, la façon dont on s'est organisé, c'est on s'est dit on va s'organiser en non-mixité, pas pour dire la parole des hommes n'a aucun poids ou n'a pas de valeur, mais c'est pour dire voilà, les femmes en fait ont en fait toutes les compétences pour s'organiser ensemble et en fait c'est très bien comme ça. Et on va organiser une forme d'alliance dont on va définir les termes avec les hommes qui veulent nous soutenir. Et ce qui s'est passé, et ça s'est très bien passé comme ça, c'est on a organisé une grève, on a organisé une journée, des actions aussi avant le 8 mars. Et l'alliance qui était définie, c'était que les hommes étaient là pour nous aider dans la logistique. Et ils ont organisé les garderies, et voilà, ils nous ont aidé à faire de la nourriture le jour J, etc. Mais donc voilà, je pense qu'il y a aussi des choses là où les femmes ont des revendications, il faut les entendre, les écouter, les mettre en pratique et définir une alliance claire avec ce que les hommes peuvent faire. Parce que aujourd'hui, dans le monde politique, qui peut changer les choses ? C'est en fait un homme blanc de 50 ans, alors qu'en fait, la rude femme noire de 21 ans sait très bien en fait qu'est-ce qu'il faut changer. Et quand je définis mes revendications, elles devraient juste être entendues et pas remises en question par l'homme blanc qui dit « oui, mais c'est pas vraiment possible », alors qu'en fait, c'est les expériences des femmes qui sont le plus à la marge, qui définissent en fait une société beaucoup plus inclusive. Moi, je crois vraiment que c'est important de dire qui est la personne la plus précaire, qu'est-ce qu'elle vit, c'est elle qui va pouvoir définir qu'est-ce qui est en fait une société plus égalitaire. Parce que quand une femme précaire dit « voilà, en fait, il y a tel problème dans la sécurité sociale, il y a tel problème dans la répartition du temps de travail ou dans la charge mentale ou dans la charge de travail domestique », c'est elle qui va permettre de dire « en fait, on a besoin de réformer la sécurité sociale de cette manière, le temps de travail ou par exemple, le salaire de telle manière pour faire en sorte qu'on ait une société beaucoup plus inclusive ».
Il y a peut-être des, je me fais l'avocat du diable, hein, mais il y a peut-être des paramètres qui échappent à la femme de 21 ans.
Lesquels ?
Ah ben, j'ai dit peut-être qu'il y en a.
Mais je crois que c'est un peut-être qui est très, c'est très hypothétique parce qu'en fait, qu'est-ce qu'une femme ne. Je pense qu'il y a une expérience très complète dans l'expérience des femmes. Je pense que moi, aujourd'hui, par exemple, je peux dire que je sais ce que c'est la pauvreté, je sais ce que c'est les inégalités de genre, parce qu'en fait, j'ai réussi, même entre les mailles du filet, à, par exemple, faire des choix d'études qui ne sont pas nécessairement orientés comme par exemple, pour les femmes. Par exemple, j'ai fait le choix de commencer des études en informatique et de me retrouver complètement minoritaire au sein d'un auditoire et en plus, en tant que femme noire, encore plus minoritaire dans un auditoire. Je crois qu'il y a des choses, en fait, là où les femmes qu'elles aient 20 ans, 60 ans, vivent des expériences très complètes par rapport à une vision de société. Dire, je sais, enfin, par exemple, moi, je vis dans une famille monoparentale et j'ai été à charge de ma mère et de mon père, et je vois très bien la différence entre ce que ma mère a vécu comme charge de travail et ce que mon père vit comme charge de travail. C'est très différent. Et en plus, en tant que parents qui sont venus du Congo et qui maintenant sont belges, il y a aussi une expérience très différente. Donc, dire que en tant que femme de 21 ans, j'ai une expérience qui n'est pas assez complète pour avoir une société plus inclusive, je crois pas que c'est vrai en fait. Je crois qu'en fait les femmes vivent des choses pour lesquelles elles doivent peut-être prendre le temps de pouvoir mettre des mots dessus et les mettre en termes sur papier en termes de revendications politiques. Mais en tout cas, moi, le vécu que j'ai en tant que femme noire issue de parents, enfin venant afro-descendante en tout cas en Belgique, dans un pays en plus qui ne reconnaît pas du tout l'histoire coloniale, qui vit du racisme et du sexisme au jour le jour, je crois que je vis une expérience très complète sur laquelle je peux mettre des revendications politiques qui vont faire en sorte qu'on ait une société beaucoup plus inclusive, qu'une personne comme Charles Michel, homme blanc de je ne sais pas quel âge, qui vient d'un petit patelin du Brabant wallon, d'une
pas
famille assez riche. Pas si petit que ça, mais bon. Et je crois que j'ai une expérience beaucoup plus inclusive de la société, en tout cas une vision beaucoup plus inclusive de par mon expérience, et même pas nécessairement de par ma vision politique, mais de par mon expérience de la société, qu'un homme blanc de 50 ans. Tout simplement parce qu'en fait, je vis des discriminations au jour le jour qui font que je me dis, il y a quand même un problème, qu'en fait, même si quelqu'un peut le comprendre en lisant un livre, ne peut pas comprendre la complexité ou même juste la charge émotionnelle qu'est en fait le sexisme, le racisme dans une société.
Il faut faire de la politique.
Mais c'est clairement politique. Moi, je dis toujours que la vie des femmes et la vie de toutes les personnes qui sont en fait minorisées est une vie intrinsèquement politique. Parce qu'en fait, être tous les jours dans une situation là où on cherche à survivre et en plus à pallier aux rôles sociaux qu'on nous assigne, c'est incroyable. Je veux dire, même si une femme est vraiment féministe, elle va quand même devoir pallier au fait qu'elle a des enfants, etc. Nous, par exemple, au sein du collectif, on a vraiment décidé à chaque assemblée générale d'organiser des garderies. Mais en fait, si on y réfléchit bien, il y a parfois après, il y avait aussi des familles homoparentales, mais parfois, donc on aurait pu se dire, en fait, comment ça se fait qu'on doit organiser une garderie, par exemple pour les femmes qui étaient dans des relations hétérosexuelles, comment ça se fait qu'on doit organiser une garderie? Pourquoi est-ce que le père ne peut pas garder l'enfant une après-midi, un dimanche ou un samedi?
Bien sûr qu'il peut.
Bien sûr, mais il peut. Mais en fait, la garderie était nécessaire pour la participation. Et donc c'est bien ça le problème.
C'est ce que je reviens à dire tout à l'heure, c'est une question d'éducation. Il y a plein d'hommes qui font ce que vous dites.
Mais je pense que l'éducation, c'est une chose, c'est un travail à long terme qui est nécessaire. Après, comment est-ce que ça se fait que sur des décennies et des siècles, ça ne change pas? Moi, c'est la question.
Qui c'est qui éduque les enfants?
Ben, ça devrait être les deux. Mais après, c'est les parents, les femmes et la société avec.
Ah ben alors.
Et tout le monde, et moi je dis toujours, féministe ou pas, tout le monde intègre des moyens de survie. Et si en fait mes parents ne m'avaient pas dit, Ruth, en fait, il faut savoir que tu vas vivre du racisme, etc., et que tu vas réagir de telle manière en fonction de telle situation, et ben en fait, je serais juste chamboulée dans ma vie, complètement perturbée. Alors qu'en fait, chacun a des moyens de survie et on réagit à chaque situation d'une manière là où on va être le plus confortable possible. Je crois que si aujourd'hui les femmes reproduisent aussi des inégalités envers leurs enfants, c'est tout simplement parce qu'elles leur donnent des moyens de survie. En fait, quand on éduque les filles à croiser leurs jambes ou bien à bien se tenir, à rester calme, c'est parce qu'en fait, même à l'école, c'est réprimé pour une jeune fille de ne pas être dans les codes. Mais moi, je vous donne l'exemple toujours très simple dans mon école. Si une fille portait une jupe, ben c'était un problème. Si une fille avec plus de forme portait des jupes, c'était encore un plus gros problème. Mais déjà, même sur les corps, il y a déjà des réglementations qui sont très fortes, même au sein des écoles. Donc l'éducation, c'est une chose, mais regardons les règlements d'école. On regarde même au travail, en dehors du travail, dans la vie personnelle. Partout, les femmes, en fait, ont des rôles assignés et doivent faire quelque chose. Et mais même pas que des rôles, c'est vraiment, comme je dis, même aussi des corps, c'est le 31 mars, marche pour la vie, 10 ans de la marche pour la vie, contre l'avortement, etc. Le corps des femmes est tout le temps réglementé. Il y a aussi même la dépénalisation de l'avortement qui a été votée, qui n'est même pas du tout une dépénalisation. C'était juste, en fait, on va sortir l'avortement du code pénal, mais toutes les peines restent les mêmes. Et en fait, aujourd'hui, il faut juste reconnaître ce qui a tout le temps été dit, c'est que on doit arrêter de contrôler ce que les femmes font et de juste les laisser être libres, faire ce qu'elles veulent.
Ah bien, après cette diatribe, on va s'écouter un peu de musique.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimé servante, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimé putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez.
RCF, la joie se partage.
Vous êtes toujours à l'écoute de Solid'Aide avec le réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Nous sommes avec Françoise et avec Ruth. Françoise, vous avez quelque chose à ajouter à cette longue tirade de Ruth?
Oui, j'ai quelque chose à ajouter à la longue tirade de Ruth que j'ai beaucoup aimée entre parenthèses. C'est qu'il y a aussi, effectivement, quand vous dites c'est un problème, qui est-ce qui élève les enfants, etc. Il y a aussi tout ce qui est dans la société, la société de consommation, la publicité, le rôle qu'on donne aux femmes, que ce soit dans les médias, dans le cinéma, enfin il y a plein d'endroits où on peut se poser des questions sur le rôle qu'on attribue aux femmes et sur l'image qu'on donne d'elles. quand je me promène en ville et que je vois des publicités où des femmes sont en maillot de vin, en maillot de bain pour vous vendre des voitures, je vois pas très bien où est l'intérêt.
Je suis d'accord, mais la femme, on l'a pas forcée à se mettre là.
Non. Non, probablement, mais c'est l'image que, qui est véhiculée.
Oui, mais elle contribue. Elle pouvait dire non, la fille.
Oui, mais du coup, la mannequin, elle vit comment si c'est son corps qui lui permet de vivre
et on n'est pas qu'un corps, hein. On a une
non, mais
aussi.
Je veux dire, si une personne est modèle, comment est-ce qu'elle survient à ses besoins?
Ben pas que pour des voitures, elle peut porter pour du parfum, pour faire plein de choses.
Oui, elle pourrait le faire. Mais je veux dire, c'est totalement différent de dire.
Est-ce que vous pensez que dans une société comme Belgacom, il y a plus de justice homme-femme?
Non, pas du tout.
Pourtant, c'est une femme qui dirige.
Oui, c'est une femme qui dirige, mais est-ce que c'est pour autant que son objectif à elle au sein de la société, c'est de réduire les inégalités, déjà? Toutes les femmes n'ont pas vocation à réduire les inégalités. Et ça, l'histoire l'a aussi prouvé.
Ah, voilà le grand problème lancé.
Non, c'est pas
juste homme-femme.
C'est pas un problème lancé. Je pense que c'est aussi juste, il y a des femmes qui vivent en société. Et il y a des femmes qui le vivent très bien. Hein, je veux dire, chaque féministe, on a déjà vu plein d'émissions sur le féminisme, on a déjà vu deux femmes qui se contredisent totalement. Mais
est tout à fait logique.
Logique, comme les hommes se contredisent.
Exactement.
Donc je pense pas qu'en fait, mettre le centre du problème sur, en fait, il y a une dispute entre femmes et le centre de notre problème. Je crois pas que c'est ça du tout le problème.
Mais le problème n'est pas homme-femme non plus.
Mais le problème est homme-femme dans le sens là où quel homme, par exemple, prenons le Parlement par exemple, quel homme aujourd'hui est prêt à se dire notre Parlement ne représente pas la société parce qu'en fait il y a une répartition représentative.
Il y a bien des lois faites pour qu'il y ait des quotas et de la parité.
Il y a des quotas, mais imaginons si on se disait aujourd'hui notre Parlement doit être à l'image de la société belge. Quels hommes aujourd'hui sont prêts à dire « Oh, ok, moi je vais me retirer du Parlement pour qu'on aille 50-50 ».
Et quelles femmes se mettent sur les listes? Vous êtes sur les listes pour le mois de mai?
Non, moi je suis pas sur les listes. Mais c'est justement, c'est tout un processus qui doit se mettre en place pour pouvoir dire « Les femmes, en fait, vous avez autant de compétences que les hommes parce que leurs compétences sont à chaque fois remises à zéro. On doit toujours les questionner sur qui elles sont. » Moi j'ai déjà, par exemple, assisté à... C'est très bête, mais j'ai déjà assisté... à une séance photo, là où une photographe professionnelle arrive dans un studio et on la questionne sur « Ah, est-ce que c'est vous la photographe ?» On lui pose des questions techniques, etc. Alors qu'en fait, elle est très professionnelle, elle travaille depuis des années dans le métier, et on la questionne toujours sur ses compétences. Je crois qu'en fait, il n'y a pas une question de dire « Oui, mais où sont les femmes? Pourquoi est-ce qu'elles ne se mettent pas sur les listes ?» Elles ne se mettent pas sur les listes pour les mêmes raisons qu'elles ne sont pas représentées, en fait, au sein du Parlement.
Mais elles ne risquent pas d'être représentées si elles ne se présentent pas.
Mais il faut justement, ça c'est en fait un travail de soutien des femmes qu'il faut faire pour leur dire, en fait, maintenant, aujourd'hui, on arrête de nous-mêmes se remettre en question, mais on se remet aussi en question parce que c'est ce qu'on nous a appris à faire. On nous a appris à se mettre en retrait.
On se retrouve le mois prochain. C'est pas fini.
Pas de problème.
Allez, à bientôt.
Des frontières pour se les disputer. Ils sèchent les rivières, brûlent bois et forêts, font l'été de l'hiver, inversent les marées. Ils cherchent le profit sans même en profiter, se lancent des défis comme on jette les dés. Ils sèment l'injustice, récoltent la misère au bord du précipice. Il regarde en arrière. Béni soient les femmes qui aiment encore les hommes. Quand on voit ce qu'ils font, quand on en fait la somme. Béni soient les femmes qui aiment se créent des empires et des palais de fer. Ils